Il est 8h. Le journal Frédéric Mettezeau. Bonjour.
Bonjour à tous. Comment enrayer les suicides de policiers? Le ministère de l'Intérieur met en place une cellule de prévention alors que le nombre de suicides explose dans les forces de l'ordre. Témoignage d'une policière qui a failli mettre fin à ses jours. Le président promet, le gouvernement met en œuvre. Séminaire gouvernemental aujourd'hui pour décliner les annonces d'Emmanuel Macron, notamment la baisse des impôts. Nicolas, vous en parlerez avec votre invité à 8h20.
Oui, il s'agit de Stanislas Guérini. Il est délégué général, c'est-à-dire patron de La République En Marche. Et dans le grand entretien de la matinale, dans une vingtaine de minutes, appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000.
Au sommaire ce matin, le Premier ministre socialiste en tête des élections législatives en Espagne, mais sans majorité absolue. Nous serons en direct de Madrid. Des Japonais paniqués à l'idée d'avoir 10 jours de congé pour le sacre du nouvel empereur, la mobilisation pour rouvrir les trains de nuit et la 115e édition de la Foire de Paris, et puis du théâtre immersif où les spectateurs côtoient les acteurs.
France Inter.
Depuis le début de l'année, 28 policiers et 2 gendarmes se sont suicidés. C'est beaucoup plus que l'année dernière à la même époque. Les forces de l'ordre se disent usées, sous tension à cause de la menace terroriste et de la mobilisation des gilets jaunes, a fortiori quand quelques-uns les invitent, entre guillemets, à se donner la mort. Voilà pourquoi le ministère de l'Intérieur instaure ce matin un dispositif censé prévenir les suicides dans la police nationale. Sophie Parmentier.
Les appels au suicide scandés par des gilets jaunes ont été un choc pour cette policière de terrain qui préfère garder l'anonymat. Il y a quelques années, elle a failli se suicider, abîmée, dit-elle, par la noirceur d'un métier qui lui semble de plus en plus difficile.
Quand j'ai eu l'accrochage de trop, j'ai craqué total et ce jour-là, j'étais au commissariat et j'étais en train de pleurer parce que forcément, il y a les nerfs qui lâchent et je me suis dit qu'il fallait que j'aille déposer mon arme parce que il aurait suffi d'un autre moment où je me retrouvais dans l'état d'esprit dans lequel j'étais pour passer à l'acte.
L'arme des policiers et des gendarmes est souvent celle qu'ils utilisent pour se suicider. L'alerte prévention suicide que lance aujourd'hui le ministère de l'Intérieur prévoit de renforcer l'écoute avec plus de psychologues, mais l'écoute doit aussi venir de la hiérarchie, estime Jean-François Papineau, directeur départemental de la Sécurité du Nord.
Face à une situation traumatisante, être en mesure, au retour de cette mission, quelques jours après ou quelques temps après, de l'évoquer de telle sorte que chacun puisse dire ce qu'il a pu ressentir. C'est la méthode de débriefing et c'est une pratique qui se généralise. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment la multiplier parce qu'elle est essentielle.
Ce directeur martèle qu'il faut surtout plus de bienveillance envers des troupes pour beaucoup épuisées.
Un reportage de Sophie Parmentier à retrouver en version longue sur franceinter.fr. Et dans ce contexte, plusieurs personnes ont été interpellées vendredi dernier, on l'apprend ce matin, soupçonnées d'avoir préparé un attentat contre des forces de l'ordre. C'est une information de nos collègues de France Info. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire en février pour association de malfaiteurs. Parmi les personnes arrêtées, un mineur déjà condamné par un tribunal pour enfants. En février 2017, à l'âge de 15 ans, il avait cherché à se rendre en Syrie.
Il est 8h04. Les grandes lignes pour Emmanuel Macron, les modalités pour le gouvernement et la majorité.
Après les annonces présidentielles jeudi, les ministres et les responsables de la majorité se retrouvent à Matignon dans une heure. Séminaire gouvernemental pour mettre en œuvre les mesures présidentielles, notamment la baisse des impôts de 5 milliards. 15 millions de foyers devraient être concernés. Maxime Debs, l'équation n'est pas simple.
Premier dilemme pour le gouvernement, que ce geste fiscal ne creuse pas un gouffre supplémentaire entre les Français. Derrière la bonne nouvelle, plus qu'un risque, c'est un danger réel pour Guillaume Allègre, spécialiste des questions fiscales à l'OFCE.
Forcément, lorsqu'on réduit l'impôt sur revenu, on va augmenter les inégalités dans la société parce que on va réduire l'impôt sur revenu sur des personnes qui sont plus aisées que la moyenne.
Cette question mise de côté, Bruno Le Maire l'a dit, il veut déjà cibler les ménages les plus modestes, ceux qui, avec de bas revenus, font leur entrée dans l'impôt et qui ont l'impression d'être trop durement taxés d'un coup. Un adoucissement, une tranche à 10% d'imposition contre 14 aujourd'hui pourrait être créée pour eux en quelque sorte. Tout ça reste à définir, sachant que Gérald Darmanin, vendredi de son côté, a lui promis une hausse qui profiterait à chaque contribuable de la classe moyenne et ce à hauteur de 10%. mais là aussi, l'équation n'est pas si simple.
Si les plus aisés voient leur impôt réduit de 10% et que les petites classes moyennes voient aussi leur impôt de réduire de 10%, ça serait anti-redistributif.
Anti-redistributif, autrement dit, là encore inégalitaire, les choix seront cornéliens et scrutés par une partie des gilets jaunes, une partie seulement, l'autre déplorant un geste qui ne les concerne pas, l'impôt étant payé par ceux qui en ont déjà les moyens.
Les autres engagements du chef de l'État à dérouler, la suppression de l'ENA et des grands corps de l'État, un nouvel acte de décentralisation, la réforme du Conseil économique, social et environnemental et la création du Conseil de défense écologique. À ce sujet, pour Nicolas Hulot, le Conseil de défense écologique est une bonne idée à condition de se mettre tout de suite au travail. Aujourd'hui, l'UNESCO organise un sommet crucial pour la biodiversité, une première depuis 15 ans. 150 experts de 50 pays avec un rapport alarmant sur leur table de travail. Près d'un million sur les 8 millions d'espèces connues sont menacées de disparition.
Ce n'est pas si courant, Frédéric. Un socialiste gagne une élection en Europe.
C'est le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Il est arrivé en tête des législatives hier avec 123 sièges sur 350 selon les résultats qui portent sur presque 100% des voix dépouillées. Il est loin devant la droite qui a 65 sièges, mais il est loin aussi de la majorité absolue. On va y revenir. Mais d'abord, on s'intéresse à l'autre information de la soirée. Bonjour Isabelle Labeyrie.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes en direct de Madrid, Isabelle. L'extrême droite fait son entrée au Parlement à Madrid. C'est une première depuis la mort de Franco et le rétablissement de la démocratie en Espagne.
Alors presque une première, hein, puisque un député ultranationaliste a déjà été élu, c'était en 77, mais il a fait un seul mandat sans laisser beaucoup de traces dans l'histoire. À cette échelle, effectivement, Vox devient le premier parti d'extrême droite à entrer au Cortés, même si 24 députés sur 350, c'est finalement un pouvoir assez mince, et il y avait beaucoup de déceptions hier soir chez les militants comme Elena.
Nos habíamos ilusionado pensando que iba a ser mucho más espectacular.
On s'était un peu emballé, on pensait que ce serait beaucoup plus spectaculaire. Mais ce qui me déçoit le plus, c'est que Pedro Sanchez soit toujours là. J'étais persuadée que les gens réagiraient pour s'en débarrasser. Et là, j'hallucine, vraiment.
Mais oui, Pedro Sanchez est toujours là, plusieurs fois donné politiquement mort. Arrivé au pouvoir en juin 2018 sur un coup de poker, il savoure aujourd'hui une victoire que son parti attendait depuis 11 ans.
Alors je vous rappelle les résultats, 124 sièges pour le PS, 65 pour la droite, 57 pour les centristes de Ciudadanos, 42 pour la gauche radicale Podemos et donc, on le disait Isabelle, 24 pour Vox, l'extrême droite. À ce stade donc, il n'y a pas de majorité absolue pour Pedro Sanchez.
Non, et pour en construire une, eh bien, ça ne sera pas une partie de plaisir. Podemos, la gauche radicale, a déjà fait offre de service, mais ça ne sera pas suffisant. Les centristes, qui auraient fait des alliés naturels, ont déjà dit « non merci ». Eux, ils devraient siéger avec les conservateurs, dans l'opposition. Restent donc les nationalistes basques et surtout catalans, qui ne sont pas des partenaires dociles. En fait, la fragmentation du paysage politique complique singulièrement l'obtention d'une majorité claire. L'Espagne et Pedro Sanchez peuvent donc se préparer à de longues tractations dont le résultat ne sera probablement pas connu au mieux avant le mois de juin.
Isabelle Labeyrie en direct de Madrid pour France Inter. Au Japon, l'ère impériale Heisei s'achève et la Reiwa va s'ouvrir dans quelques heures. L'empire du soleil levant passe de la paix lumineuse à l'harmonie ordonnée. Demain, l'empereur Akihito va abdiquer au profit de son fils Naruhito. À cette occasion, les Japonais auront 10 jours de vacances. C'est exceptionnel et c'est souvent très mal vécu. Reportage à Tokyo de Karine Nishimura.
Les salariés japonais ont droit à 3 semaines de congés payés dans l'année, mais en moyenne, ils n'en prennent que la moitié. Alors, 10 jours d'un seul coup, c'est exceptionnel, comme le souligne cette marchande de vêtements.
Les Japonais sont des bêtes de somme, beaucoup ne se reposent pas, alors pour une fois, c'est peut-être pas mal.
Seulement voilà, s'arrêter de travailler pour la majorité des Japonais, ce n'est ni réjouissant, ni reposant, c'est angoissant.
Je ne me suis jamais vraiment reposé, alors 10 jours c'est impensable, je ne sais pas comment les passer. En m'arrêtant, je crains au contraire de perdre mon travail.
Pourtant, les voyagistes et hôteliers ont concocté des offres spéciales pour ces congés inédits, mais encore faut-il en avoir les moyens, rétorque la mère de famille Yamasaki.
Voyager coûte trop cher, d'habitude je pars, mais cette fois non, et en plus c'est plein partout, bref c'est embêtant.
Le pays ne s'arrête pas de fonctionner pour autant. La plupart des boutiques sont ouvertes, mais beaucoup s'inquiètent de la fermeture des cabinets médicaux ou du risque de manquer de billets de banque parce que les distributeurs automatiques ne seront pas rechargés. Car au Japon, on paye encore, surtout en liquide. Et ceux qui travaillent quand même se plaignent de ne pouvoir faire garder leurs enfants. Bref, 10 jours fériés, c'est trop. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Il est 8h10, Frédéric, on revient à l'actualité française. Mobilisation pour le retour des trains de nuit.
La quasi-totalité des lignes de nuit ont été fermées il y a 2 ans, mais plus de 110 000 personnes ont signé une pétition en ligne pour les rouvrir. Idem au Sénat, avec un amendement à la loi d'orientation sur les mobilités. Léa Boutin-Rivière.
Plus écologique que les trajets aériens, meilleur marché, mais surtout très pratique. Autant d'arguments en faveur des trains de nuit et qui ont séduit Pascal Dauboin, usager de la ligne Paris-Pau pendant 15 ans et jusqu'à sa fermeture.
Moi, je l'utilisais pour me rendre chez ma famille qui habite Orléans. On pouvait, sans correspondance, se mettre dans le train de nuit à Pau et arriver à 7h du matin. Et donc, avoir un week-end complet avec sa famille ou ses amis qui ont fait l'alternative aujourd'hui, ben, ça veut dire 2 journées perdues pour faire des correspondances en train.
Le Sénat lui-même demande la réouverture des trains nocturnes. Un amendement a été ajouté à la loi mobilité pour forcer le gouvernement à étudier la question, insuffisant pour Nicolas Faurien, militant au sein du collectif Oui aux trains de nuit.
Il faudrait aller plus loin aujourd'hui, il faudrait vraiment que l'État propose un financement pour ces trains de nuit. Il faudrait à peu près 1,5 milliard d'euros, quand on voit que ça permettrait d'éviter 150 000 vols par an, et donc 1,5 million de tonnes de CO2, ça coûte finalement peut-être moins cher que de ne rien faire pour le climat.
Maryse Carrère, sénatrice à l'origine de cet amendement, tient à nuancer.
La loi mobilité est une loi d'orientation, en aucun cas, elle n'a fixé des objectifs déterminés et elle n'a pas non plus fixé de financement.
Le gouvernement était opposé à cet ajout au projet de loi qui risque donc de disparaître lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale le 14 mai.
Comment lutter contre la pollution, le bruit et les embouteillages sur le périphérique de Lyon aujourd'hui? La vitesse maximale passe de 90 à 70 km/h, mesure pérenne décidée par la métropole de Lyon. Serrés comme des sardines de Bretagne à Guipavas dans le Finistère la nuit dernière, les pompiers ont été appelés dans un accident de voiturette sans permis. Le conducteur avait percuté un arbre et à l'intérieur de la mini-voiture, ils ont découvert 8 personnes. Une information de France Bleu Bretagne. Zizel. Elle a 115 ans et c'est le plus grand magasin éphémère de France. La Foire de Paris a ouvert ce week-end, Porte de Versailles. 500 000 personnes y sont attendues jusqu'au 8 mai. La vénérable foire résiste plutôt bien à Internet, même si certains exposants la trouvent parfois un peu moins rentable qu'avant. Sébastien Sabiron.
On dégraisse, on désinfecte et là on sèche.
Patrick Turgis vend des aspirateurs à vapeur depuis 18 ans à la Foire de Paris. Toujours aussi convaincu par l'utilité de son produit, mais un rien maussade quant à la fréquentation du salon.
On se rend compte que d'année en année, c'est de plus en plus calme. Je pense que c'est un peu le pouvoir d'achat. Vous arrivez ici, vous êtes une famille, le ticket d'entrée, le parking, vous mangez un bout, c'est vite 150 €. Après, il faut acheter les produits à l'intérieur de la foire.
Même constat pour Charles Foitat. Dans les années 30, ses grands-parents vendaient des paniers de charcuterie dans les allées de la foire. Aujourd'hui, il y tient un restaurant de spécialité corse et se souvient d'une époque pas si lointaine où les exposants se battaient pour avoir un stand.
Il y avait vraiment une liste d'attente et il fallait attendre qu'il y ait quelqu'un qui décède ou qui parte pour pouvoir avoir un stand. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de concurrence. Les prix des stands ont largement augmenté. C'est trop coûteux à la fin, quoi.
Plusieurs dizaines de milliers d'euros l'emplacement pour un restaurant. Cher mais pas excessif, estime Karine Préter, directrice de la Foire de Paris.
En effet, ils vont payer un certain prix pour le stand, mais qui va leur permettre de générer pour certains entre 1 à 6 mois de chiffre d'affaires à l'année, donc c'est extrêmement important. Et puis au-delà de cet acte commercial, des visiteurs vont découvrir des marques dans lesquelles ils ne seraient pas forcément allés spontanément.
Car les visiteurs de la Foire de Paris repartent rarement les mains vides. L'an dernier, ils y ont dépensé 220 millions d'euros, soit plus de 500 € en moyenne par visiteur.
Le championnat de Ligue 1 de football est la fin de la 34e journée hier soir. Marseille est décroché dans la course à la Ligue des Champions après sa défaite 2-1. Défaite à domicile contre Nantes, l'OM est 5e derrière le PSG, Lille, Lyon et Saint-Etienne. Dijon et Guingamp semblent condamnés à la descente en Ligue 2. Et puis à Madrid, Zinedine Zidane est en colère. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, Zizou. Son équipe a perdu 1-0 contre Vallecano, qui est dernier du classement et qui a un budget 20 fois plus modeste que Madrid. Nous n'avons n'avons rien fait du tout de la première à la dernière minute. Nous n'avons pas joué au foot. Je suis en colère parce que nous avons donné une très mauvaise image. Le Real est certain de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais samedi, c'est bien Barcelone qui est devenu champion d'Espagne.
Et du théâtre immersif, Frédéric, en France.
Ces pièces où les spectateurs sont au cœur de l'action et interagissent avec les comédiens. Le théâtre immersif vient des États-Unis et à Paris, les 5500 places de la pièce Close se sont arrachées. Les spectateurs sont renvoyés en 1917. Dans un cabaret, ils sont invités à un mariage. Stéphane Capron, masqué, s'est immergé dans l'intrigue.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir monsieur, bienvenue.
Madame Lola. Il faut être gentil avec Lola si vous voulez profiter.
Pour se faire discret, chaque spectateur porte un masque et peut siroter un verre au bar.
Alors vous êtes ici au Paradis. Au Paradis, un bar créé en hommage au Phénix. Le cabaret qui était ici même. Donc le Phénix est mort sous les flammes en 1917. Nous avons récupéré dans les décombres quelques affiches, vous pouvez ici voir. La Grande Olympia, bon, l'affiche a quelque peu brûlé.
Les invités du mariage sont libres de déambuler dans ce cabaret libertin où l'on peut visiter des chambres privatives.
Il y a la chambre collective et puis après il y a la chambre d'Olympia et il y a ma chambre.
Je m'emmène Stéphane avec toi.
On y va alors. C'est parti, on y va.
L'idée du théâtre immersif vient de New York. Depuis 8 ans, Sleep No More ne désemplit pas. Jérémy, spectateur avisé, a testé les deux expériences.
Ici, c'est encore plus impressionnant que Sleep No More, parce qu'au fond, il y a une vraie histoire construite, ce qui est très difficile à faire, et il y a une vraie interaction quasi permanente avec le public.
Les scénaristes, dont Ariane Reynaud, ont écrit une centaine d'histoires.
Il y a deux tiers du spectacle qui se fait en improvisation, c'est-à-dire qu'on sait où on doit aller, mais les comédiens réagissent par rapport à l'ambiance du soir. Et donc ils ont leur personnage tellement pleinement à l'intérieur d'eux qu'ils peuvent réagir à toutes les situations en personnage.
Devant le succès de cette première expérience, la compagnie cherche un autre lieu pour prolonger ses nouvelles nuits théâtrales.
Ne pensez pas que
dans les coulisses de Close, reportage à retrouver aussi sur franceinter.fr. Le spectacle est à guichet fermé et ceux qui ont acheté leurs billets sauront au dernier moment où ça se joue. C'est quelque part dans le 11e arrondissement de Paris avec un masque sur les yeux.
Merci Frédéric Mettezeau.